Je vous propose d'écouter un regard plein de contrastes, avec ses prises de vie et son attachement à l'écriture. Cet homme sait suspendre le temps, suggérer l'étreinte d'un mouvement ou saisir la profondeur de l'instant. Il fait partie de ces gens qui observent le monde pour nous révéler ce qu'est la fraternité, la mémoire ou le temps qui passe. Son clair-obscur est comme un éclat d'âme.
Je dis parfois comme ça pour rire, mais c'est pas drôle, je fais un métier en voie de disparition.
Tristan Jeanne Vallès, photographe.
Je trouve que c'est de fait de plus en plus difficile d'être photographe, de continuer à être photographe. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec toute la transformation qui a eu lieu ces 15 dernières années, on va dire, avec l'arrivée du tout numérique, on a multiplié par 1000 les possibilités de diffusion des photos, mais en même temps, on est noyé dans une masse d'images au quotidien avec plein de choses très très moyennes en fait. Et la tendance, c'est que la photographie aujourd'hui devienne un peu libre, anonyme et gratuite. Même les journaux, même une maison d'édition, si elle veut une photo libre de droit, comme on dit, gratuite sur un sujet, elle va la trouver. Quand toi, photographe professionnel, tu dis « bah oui, mais moi, c'est 150 ou 200 euros », tu te fais presque engueuler aujourd'hui. Dire que le fait de signer une photo, c'est juste la loi, c'est pas, j'ai pas à dire merci quand on signe une photo, c'est la loi, c'est l'usage. Donc il y a une espèce de décalage étrange là entre cette espèce de technologie qui permet la diffusion plus des images et un espèce de retour en arrière sur la notion de droit d'auteur et la notion d'être photographe professionnel, donc de vivre de ces photos. J'ai commencé à flasher en quelque sorte sur des photographes, principalement sur des livres de photographes. Puis à un moment, je me suis aperçu que oui, que c'était, ça allait être mon métier. C'est aux alentours de 1977-1978, j'avais 24 ans, moi je suis né en 54, et j'étais en Irlande en fait à cette époque-là. J'ai passé beaucoup de temps en Irlande entre 78 et 80, parce que j'aimais beaucoup ce pays, et puis à la fois pour ses paysages, disons, mais surtout pour les gens. Et c'est aussi dans ce pays que j'ai commencé un travail que j'ai jamais vraiment quitté d'ailleurs depuis, sur les musiciens traditionnels, on va dire, les musiques populaires, les musiques traditionnelles. J'ai eu cette idée de faire un livre sur l'Irlande, et je l'ai proposé à Isoët, éditeur à Cherbourg. Il y a une très belle préface d'un écrivain que j'adore, qui s'appelle Pierre Michon, qui est vraiment pour moi la référence dans la littérature, dans l'écriture. J'ai fait des portraits de lui aussi. Mais au-delà, faire un livre de photos, je pense que l'association avec un ou plusieurs écrivains est vachement intéressante. Le livre reste.
Cette caillasse et ce filtre, cette enfance brutale, c'est l'Irlande. Et planter là-dedans les Irlandais, c'est-à-dire une humanité archaïque, mythologique, qu'on voudrait pouvoir dire éternelle, mais qui est littéraire à coup sûr, et photogénique. Car ce que le lecteur a sous les yeux est un peu plus que l'Irlande, c'est l'Irlande comme nul ne l'a vue, même si chacun la reconnaît au premier coup d'œil. Un regard l'a choisi. Cadré, pensé, déformé pour lui donner forme. C'est de la photographie. Ce ne sont pas des Irlandais, ce sont des portraits d'Irlandais. Les portraits de Tristan Jeanne Vallès ont ceci de spécifique qu'ils montrent des hommes en relation étroite et comme communiel avec un objet. Et le charme troublant de ces portraits réside en ce que l'objet est toujours davantage que ce qu'il paraît. Il est instrument, certes, il possède un volume et une étendue, mais il est instrument de passage vers quelque chose de plus que lui, qui n'est pas visible, sans volume et sans étendue. C'est ce qui fait le miracle, ici comme ailleurs, des portraits de musiciens. Certes, ils tiennent un instrument bien réel, souvent rutilant, avec les belles touches noires et blanches et les beaux bois polis. Mais ce qu'ils regardent, ce qu'ils embrassent de plus près que cet artefact qui pourtant est sur leur cœur, c'est la musique. Et de même, le buveur sur son banc ne regarde pas ce verre qu'il tient, mais peut-être son ivresse. Extrait du texte de Pierre Michon, Irlande.
Il y a eu plusieurs époques, c'est-à-dire que au tout début, je me disais bah tiens, j'irais bien en Écosse ou en Irlande, un peu comme ça au feeling quoi. Après, de plus en plus, j'ai essayé d'organiser un peu les séjours parce que je me suis planté une fois, c'était en Sardaigne, où je voulais absolument photographier les chanteurs sardes, parce que j'avais lu un bouquin là-dessus, enfin, ça m'intéressait. Je me suis planté, j'ai pas pu faire de photos, enfin, je n'ai pas trouvé. Là, je me suis dit, bon, il faut peut-être un peu plus organiser les choses. Donc c'est vrai, quand j'ai commencé à travailler sur les musiques des Balkans, c'est vrai qu'il y a eu une collaboration... avec Laurent Poré et puis le Printemps Balkanique. Il m'a organisé des expos là-bas. J'ai fait tourner plusieurs expositions. La première, c'était à Thessalonique, donc dans le nord de la Grèce, à l'Institut français. Après, il y a eu Sofia, en Bulgarie. Et puis, j'ai montré mon expo sur la danse contemporaine, Danse l'étreinte, à Skopje et à Pristina, au Kosovo. Et là, ce que j'ai essayé de mettre sur pied, et puis on a réussi, c'est que moi je sois invité en tant que photographe exposant, et à Skopje c'était quand même dans le musée de la ville, donc un très bel endroit, et qu'en même temps j'ai une espèce de résidence pour continuer à travailler sur les musiques traditionnelles, avec l'aide d'un fixeur, comment dire, enfin, un type qui soit de là-bas, qui connaisse bien le milieu des musiciens, qui puisse me faire rencontrer des gens, me montrer des lieux, voilà. Donc c'est une façon beaucoup plus organisée de voyager, mais c'est aussi une façon de ramener plus de photos. Le flamenco est assez exhibitionniste, on va dire, donc j'ai tout de suite réussi à trouver des lieux où ça se passait. J'ai commencé à piger qui était important dans le flamenco ou pas. Donc c'est pareil, moi je faisais à la fois des photos d'inconnus et puis j'ai aussi quelques photos de stars, entre guillemets, du flamenco. J'ai fait la une de Libé avec la gueule de Cameron, par exemple, parce que quand il est passé à Paris, j'avais fait des photos de lui plusieurs fois, un an avant. Ce travail sur le flamenco, je l'ai fait sur un coup de tête, on va dire. Enfin, et c'était juste avant que ça devienne à la mode en France. Pour le fado au Portugal, bon, c'est vrai que je commence à bien connaître le Portugal. J'avais aussi des amis qui vivaient à côté de Lisbonne, donc qui m'ont filé des coups de main pour les rencontres. J'ai été aussi en contact avec l'Institut français au Portugal, donc qui m'a aussi filé pas mal de tuyaux pour entrer en contact avec les grands noms du fado. Quoi. J'ai rencontré aussi un cinéaste qui s'appelle Diogo Varla Silva, qui a fait des films sur le fado et qui m'a fait rencontrer aussi pas mal de monde. La première fois que j'étais à Lisbonne, c'était en 1986. Je suis retourné après beaucoup de fois. Dans les années 90, 92, puis quand j'ai repris ce travail sur le fado en 2010-2011, j'y suis retourné plein de fois. Et puis là, il y a maintenant ce travail sur les chevaux lusitaniens. Et c'est des chevaux portugais, ça tombe bien. C'est aussi la ville de mes amours et de mes désamours, on va dire. Donc tout ça se mélange, donc c'est vrai que... c'est une ville qui fait vraiment partie de ma vie, de mon histoire, quoi, et de mes histoires. J'avais fait une grosse expo à Lorient il y a en 2000 sur ce travail. J'avais appelé ça la dérive nord-atlantique, c'est-à-dire c'était vraiment pour moi les pays de l'Europe atlantique, Écosse, Irlande, Bretagne, Portugal, et avec le fado, et puis Andalousie avec le flamenco. Et à la suite de cette exposition, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc du coup, j'ai photographié des fanfares roms en Serbie, j'étais en République de Macédoine, j'étais en Croatie, j'étais au Kosovo, j'étais en Bulgarie, enfin tous ces pays. Et j'y ai aussi trouvé plein de musiciens, donc musique traditionnelle, musique populaire. J'ai pas voyagé uniquement pour les photographier des gens qui font de la musique traditionnelle. Hein. Il y a eu plein de raisons ou de prétextes à voyager. C'est vrai que j'ai plusieurs travaux comme ça différents. Il y a ce travail que j'ai fait sur la baie du Mont-Saint-Michel, parce que c'est un lieu magique pour moi. J'ai une photo que j'aime beaucoup, où on voit vraiment le toit du cloître sous la neige, et puis toute la baie derrière, blanche, et puis Tomblaine qui émerge comme ça. La baie du Mont-Saint-Michel, c'est pas mal de paysages, c'est des photos d'architecture, mais c'est aussi des photos sur les gens, parce que j'ai fait des photos sur les bergers, sur les pèlerins, sur les promeneurs, sur certains plasticiens aussi qui sont venus dans la baie pour y travailler, pour y faire des choses. Les pêcheurs aussi, puisqu'il y avait à l'époque beaucoup de pêcheurs. Moi, je me suis promené dans la baie en tracteur pour aller relever des filets juste 10 km. Quoi. Bon, c'est des moments assez costauds aussi. Voilà. Mais ça, c'est vrai que ce travail sur la baie du Mont-Saint-Michel, bon, c'est sorti en 95 ou 96, hein, donc c'est pas récent. Mais oui, j'y avais bossé 5 ou 6 ans là-dessus. Quoi. En tant que photographe, je suis très attaché à l'idée de mémoire, quoi. C'est évident. Alors ça fait un peu ringard aujourd'hui, parce qu'on est plutôt sur des discours sur la photographie conceptuelle, des choses comme ça. Ce travail sur la SMN là, que j'ai pu faire, qui est devenu une exposition et un livre, hein, ce livre s'appelait L'usine à feu. Moi, ce travail, je l'ai donc fait en 1991-92, et le bouquin est sorti en 1993, juste avant la fermeture de l'usine. Cette usine était énorme, dominait la ville de Caen. Moi, quand j'étais môme, on voyait le ciel qui rougeoyait, c'était la SMN. On commençait à comprendre que l'usine allait bientôt fermer. Je trouve ça très important de pouvoir y faire un boulot un petit peu en profondeur, on va dire. Et j'ai eu l'occasion, en fait, par une amie inscrite au PC, qui, dans un esprit un peu militant, elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de bosser sur la SMN ? Si tu veux, moi je peux t'y faire entrer un peu en loose day par des gars de la CGT. Donc j'ai pas demandé l'autorisation et je suis passé par deux gars de la CGT qui bossaient donc sur le site. Donc des fois je pouvais rentrer quand c'était leur copain à l'entrée, quand c'était pas leur copain, le rendez-vous était annulé. Et ils m'ont drivé comme ça pendant 2 ans. Et au début, c'était marrant parce qu'ils m'ont vu arriver, moi, photographe, et puis moi, j'ai regardé les gars de la CGT, on s'est regardé un petit peu comme ça, bon, mais on est devenus vraiment potes, quoi. Et ce bouquin, L'usine à feu, quand il est sorti, pour moi, c'était un livre qu'on avait fait à trois. Bon, après, quand effectivement la fermeture a été vraiment annoncée, que moi j'avais commencé à montrer mes photos, elles avaient d'abord été exposées à la fête des coteaux, donc la fête du PC. À la suite de ça, le conseil régional de Basse-Normandie s'est intéressé quand même à mon travail, et l'idée d'en faire un livre a commencé à émerger. Michel Onfray m'avait écrit un texte, donc j'ai été voir le directeur de la SMN à l'époque, M. Baudot, je crois, qui m'a reçu dans son bureau et qui pendant un quart d'heure, alors j'ai montré les photos au fur et à mesure, et il regardait ça, il disait mais ça vous n'avez pas le droit d'être là, et puis là au niveau sécurité c'est interdit, et puis ça je veux pas que ça soit montré, et là je me suis dit il va jamais me donner une autorisation. Parce que c'est quand même un lieu privé, hein, voilà. Donc il me fallait une autorisation officielle, je l'ai eue, et en plus, moi j'avais été à ce rendez-vous parce que je voulais lui demander un peu d'argent, parce qu'il me manquait une photo, je voulais absolument une photo aérienne, donc d'hélico, avec tout l'ensemble de l'usine, et en arrière-plan, la ville de Caen et la ville d'Hérouville, on va dire. Il m'a accordé, je ne sais plus à l'époque, c'était peut-être 5000 francs, on va dire, pour louer un hélico et faire cette photo. Et le bouquin, de fait, il y a cette photo, c'est une grande photo panoramique, comme ça, où on voit une grande partie de l'usine et puis ce fond de ville, quoi. Voilà. Pour ancrer, c'est pareil, ancrer l'usine dans son territoire, en quelque sorte.
Partout, la poussière du minerai en suspension. L'espace de l'usine est clos et fonctionne comme une ville où la virilité serait la règle. La fraternité s'y construirait auprès des cuves du métal en fusion, à proximité des hauts fourneaux, au cœur même de l'œuvre. Le travail est dur, presque partout pénible, mais les ouvriers cultivent la noblesse. Ils sont un peu les démiurges auxquels on a confié l'antique secret des dieux, Prométhée et Phaïstos, fabriquer le métal, le forger, le plier ou vouloir. Leur quotidien se déploie en compagnie du magma et des entrailles de la terre. Cette familiarité génère des âmes autrement trempées que celles des mortels. Au pied du haut fourneau, les hommes maîtrisent la coulée. Le monstre est cerclé, à sa base, d'un anneau refroidisseur sous lequel des jets d'eau assurent un abaissement de température. Dans la fournaise, les ouvriers s'activent et vont, silencieux, comme encombrés par leurs longs manteaux qui rendent les gestes plus lents, presque hiératiques. Derrière un œilleton de verre fumé, on peut regarder les entrailles du four et le magma en fusion. On assiste à une répétition des premiers moments du monde ou à une contraction des explosions qui ne cesse d'abîmer la surface solaire tout en produisant l'énergie et la lumière. Feu d'enfer. Derrière les parois du four sont contenues d'incroyables fournaises. Dans un vacarme de percussion automatique, un marteau-piqueur s'attaque à la base du four. Il s'agit de pratiquer une ouverture pour l'écoulement du mélange liquide. La croûte finit par céder, la coulée apparaît, le feu se répand, blanc vif, rouge, orangé. L'œil ne peut soutenir, les ouvriers baissent la visière de leur casque, ils épient les mouvements de la matière et jugent la qualité du métal qui s'écoule dans les rigoles, à même le sol. Le regard des ouvriers est exercé, ils ne peuvent nommer les variations de couleur en rapport avec la température, mais ils savent, d'un coup d'œil, si la coulée est bonne. Pas de verbe entre la sensation, le corps et le geste qui s'impose. L'atmosphère est saturée de soufre, les poumons sont agressés, les yeux également, les bronches sont brûlantes. Tous, ici, savent qu'à ce poste, ils côtoient la mort sous sa forme patiente. Extrait du texte de Michel Onfray, L'usine à feu.
J'ai eu des visites guidées très précises avec ces deux gars qui, eux, y bossaient, donc ils connaissaient tout le monde. Il y a des endroits où je suis retourné plusieurs fois aussi, parce que je n'avais pas encore ce que je voulais. Enfin, mes deux potes, là, ont bien pigé ça. C'est-à-dire, au début, ils disaient, mais attends, on y a déjà été 15 fois. Après, ils retournaient. Je dis, si, si. Et puis, au fur et à mesure, je leur montrais les photos. Donc, ils ont commencé aussi à avoir un regard sur mon travail et à piger la façon que j'avais de travailler, c'est-à-dire, oui, rester dans la photographie documentaire, mais trouver des bonnes images, quoi, des bonnes images, alors, que moi je la considère comme réussie, quoi. À l'époque, on savait que l'usine allait fermer, c'est-à-dire que les gars que je photographiais savaient qu'ils allaient perdre leur boulot. Donc ça me mettait dans une drôle de position, quoi. C'est-à-dire que moi je me pointe avec mes petits appareils photo, clic-clac, et puis je discute un peu, je bois un café, puis je m'en vais. Mais moi je continue à bosser alors qu'eux vont perdre leur boulot. Donc j'en ai parlé plusieurs fois à des gens que je croisais. Et au contraire, ils me disaient, mais vas-y, vas-y, fais des photos, fais des photos, fais des photos. Comme si, et c'est même, il y a un gars qui m'a dit, mais vas-y, vas-y, fais des photos, c'est notre mémoire, quoi, c'est notre histoire. Ces photos, aujourd'hui, sont dans les collections du musée de Normandie, titre du patrimoine industriel, on va dire, mais aussi des gens, enfin, de la vie, c'est une vraie culture, quoi. En 2001, j'avais publié un ouvrage qui s'appelle Phénix. C'est une idée, hein. Phénix, c'est un mythe, on va dire. Et j'ai vachement bossé justement là, sur les matières pour ce bouquin. Alors, c'est des photos que j'ai trouvées en Islande. Le feu, la glace, je trouvais que, et puis une nature très forte. Je trouvais que ça pouvait illustrer temps, l'érosion, la vie, la mort, donc le mythe du phénix. Ces deux séries de photos sont uniquement des photos de matière, où je joue même sur des échelles. En regardant certaines photos, on ne sait pas trop si c'est de la macro-photo ou de la photographie aérienne, je dirais. Sur ces deux séries de photos de matière, j'avais donc trouvé des photos en Islande, dans la baie du Mont-Saint-Michel, et à l'île de la Réunion, en fait, au pied du volcan, parce que là, j'avais trouvé vraiment des formes de lave séchée, des choses comme ça, très fortes, quoi, ou de déserts volcaniques. Surtout avec une espèce d'arrière-pensée qui serait une sorte d'illustration du temps qui passe, de l'érosion. Moi, je me suis même amusé, et là, c'est de nouveau une espèce de regard sur mes archives. J'essaie d'accoupler comme ça deux photos d'époques complètement différentes, du noir et blanc, de la couleur, des formats différents, pour tenter d'illustrer l'érosion et le passage du temps. Il y a un chapitre sur mon site qui s'appelle les diptyques de l'érosion, mais j'ai pas été plus loin que ça. Quoi.
Money boxes huddled together for warmth. He is deposited in his inner chamber. Later, Parr meets the bear, impersonates a tree to confuse the Hell's Gate dog's sense of smell and rest for chest. No one. Then amongst the closed doors he shrinks, is dwarfed by rabbits, expands again to invade the destiny of 14 mysterious others, strangely clad. Captured by a camera, carefully arranged with a space for his image, a plot hatched by fate.
Mais les toutes premières photos que j'ai pu faire pour la Comédie de Caen, enfin le CDN, je crois que c'était fin 79, c'était un spectacle de Michel Dubois qui s'appelait Le Désamour. Moi j'étais très fier de bosser pour la Comédie de Caen. Et puis ça ne s'est jamais vraiment arrêté, quoi. C'était vraiment plus un espèce de reportage sur les spectacles en train de se faire, mais aussi sur la tribu Comédie de Caen, c'est-à-dire les gens qui sont pas forcément ou comédiens ou sur scène, mais qui participent à l'élaboration et aux créations. J'ai toujours bossé comme ça avec la Comédie de Caen, et on en a fait un livre avec la Comédie de Caen qui était sorti en 1983, qui s'appelait Planche Contact. Mais bon, ça n'annule pas non plus les photos du spectacle, puisque c'est quand même les photos du spectacle qui vont passer dans la presse, qui vont être utilisées en affiche, ou sur un site internet. Ou, voilà. Le moment du spectacle est important aussi. J'espère donc que ça va continuer, ça. Ça fait 35 ans que je suis photographe, donc... je peux me permettre une espèce de regard en arrière sur ce que j'ai pu faire. C'est vrai que quand je faisais un livre, j'avais tendance à bosser plusieurs années parfois sur un projet de livre. Et puis à partir du jour où le livre était édité, j'avais tendance à l'oublier et puis passer à autre chose. de différent, et puis oublier ce travail-là. Or aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans cet esprit-là. Au contraire, j'essaie de regarder un peu sur mes archives, on va dire, enfin sur ce que j'ai pu faire tout au long de ces années. Et puis la question, c'est qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui, quoi. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai publié un livre sur la danse contemporaine qui s'appelle « Danse l'étreinte ». Et c'est un regard sur 25 ans d'archives sur la danse contemporaine, puisque j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ce domaine de la danse. Et ce livre, Danse l'étreinte, c'est en fait une espèce de recherche, de regard sur mes propres photos. Parce que je me suis dit que la danse contemporaine, qu'est-ce que c'est avant tout, enfin c'est surtout peut-être la mise en scène, la mise sur scène de la sensualité. Donc j'ai été chercher dans mes archives, au-delà de mes meilleures photos ou les chorégraphes avec qui j'ai préféré travailler, j'ai été chercher que des étreintes. Alors de la plus éthérée à la plus crue. Et j'en ai fait une exposition et donc un livre. C'était vraiment un plaisir d'aller farfouiller dans mes archives et d'en faire quelque chose de neuf. Alors certaines de ces photos ont été publiées, puisque moi à l'époque je travaillais pour une agence de presse, l'agence Enguerrand. Dans le cadre de cette agence de presse, j'étais, disons, spécialisé plutôt sur la danse contemporaine. Donc j'ai accompagné comme ça le travail de chorégraphes, des gens comme Joseph Nadj, comme Régine Chopineau, comme Jean-Claude Galota, comme Catherine Diveres, Pina Bausch, enfin voilà, des gens comme ça. Sur 20 ou 25 ans, il y a forcément des liens qui se tissent, quoi, parce que ces chorégraphes, j'ai eu plaisir à travailler avec eux, ils ont eu plaisir à travailler avec moi, je le dis parce qu'ils me l'ont dit aussi, c'est une vraie collaboration, quoi. Mémoire close, oui, au début c'est une commande en fait, c'est une commande. La question c'est, est-ce que ça m'intéressait de travailler sur l'idée de la mémoire au bon sauveur, en sachant qu'à l'époque, 2003-2004 on va dire, le bon sauveur était en pleine transformation. Après, les toutes premières prises de vue, j'étais un peu planté parce que l'architecture, bon, n'est pas si génial que ça. Les couloirs, ça fait couloir d'hôpital. Je veux dire, voilà. J'avais pas vraiment le droit de photographier des patients. En même temps, j'avais pas forcément envie. Bon, il y a plein de photographes qui ont bossé sur la folie en gros plan, et ça marche parce que la folie est très photogénique. C'est con à dire, mais c'est vrai. Donc, quel axe trouver? Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais là un peu en perdition dans une cour, il y a un infirmier qui vient me voir, qui me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là avec un appareil photo ?» Bon, je lui explique le truc. Et puis il me dit « Bah tiens, je peux vous montrer un truc intéressant. » Donc il me montre un bout de mur, un bas de mur, avec une espèce de truc gravé, mais une sorte de bas-relief, quoi. Vraiment en volume, quoi. Et je me suis dit « Ah ouais, c'est intéressant. » Donc j'ai fait des photos de cette espèce de sculpture en creux, on va dire. Et je me suis dit, mais ouais, c'est intéressant. Puis j'ai commencé à regarder les murs de plus près, et je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'inscriptions. Ce que j'ai photographié, c'est pas du tag, c'est pas du dessin sur des murs, c'est vraiment gravé. Avec ce côté, pour graver quand même si c'est d'un pierre assez tendre, faut de la volonté et du temps. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont vraiment besoin fort de marquer leur présence ou leur passage dans ce lieu qui est quand même un lieu de la folie et de l'enfermement. La mémoire du BS, elle est inscrite aussi sur ces murs. Et c'en est devenu une exposition qui a été présentée dans les locaux du BS d'ailleurs, puis à l'IMEC. Et j'en ai fait un premier livre qui s'est donc appelé Mémoire close, puisque c'est un graffiti, une inscription que j'ai trouvée sur un mur, hein, Mémoire close, et la photo. Parce qu'en plus, le Bon Sauveur a été complètement transformé, il y avait beaucoup de ces inscriptions, aujourd'hui ont disparu. Après avoir fait ces photos, J'ai rencontré, par l'intermédiaire d'un monsieur qui s'appelle Éric Marais, Jocelyne Malher, qui est l'héritière ou la titulaire de l'œuvre d'Yvonne Guégan. Or, Yvonne Guégan, dans les années 1980-81, elle avait une amie internée au BS, elle lui rendait visite assez régulièrement, et de retour dans son atelier, dessinait comme ça, un peu à la va-vite, plutôt du croquis que du portrait, les gueules ou les attitudes des gens qu'elle avait pu croiser dans les couloirs. Et quand j'ai vu ces dessins, je me suis dit, mais il y a une espèce de y a un parallèle très très intéressant à faire avec mes photos. Comme si en fait ces gens que je voyais dessinés par Yvonne Guégan, 25 ans avant que j'ai fait les photos sur les murs, c'est comme si c'était eux qui avaient en quelque sorte écrit ce que moi j'ai photographié sur ces murs.
Sortir de ce monde pour aller où ? La folie est le cri arraché à la vie par le monde dément qui la dévore. Elle est l'illogisme d'une logique imparable, celle d'une société qui détruit l'homme sous couvert de le protéger et que l'homme est enclin à détruire parce qu'une telle protection l'étouffe. Le fou est celui qui ne supporte plus l'insupportable folie dominante et qui, dans son isolement et sa souffrance, donne des réponses inadéquates à des problèmes réels. La plupart des gens ont beau n'avoir pas franchi les murs de l'institut psychiatrique, leur existence se déroule comme s'ils y étaient. On a dit que la folie était une déchirure de soi. Mais lequel d'entre nous n'est pas arraché à chaque instant à son désir de vivre ? Nos refoulements sont tapis sous la tombe du ressentiment. Nous emmuraillons dans des lieux maudits ce qui croupit en nous. Qui sait ce qu'un glissement de terrain risque d'en faire surgir ? L'idée que nous sommes tous fous à des degrés divers offre une justification commode au désespoir, poussant les hommes à détruire la terre qui les nourrit. L'asile est un refuge pour qui ne supporte ni ce désespoir, ni cet anéantissement. Il y a en nous une animalité qui ne demanderait qu'à s'épanouir si, nous initiant à l'art d'Orphée, nous apprenions à parler à nos bêtes fauves, à les amadouer, à changer en fidèles alliés les forces qui rugissent dans nos profondeurs. Mais non. On nous enseigne à les dompter, à les contraindre, à les mépriser, si bien qu'un jour, elles s'échappent et ravagent tout sur leur passage. Voici les bruyantes rumeurs du silence oppressant. Comment n'exprimerait-elle pas les crissements du néant ? Pourtant, autorisez-vous toutes les fantaisies, tous les délires, toutes les folies, en prenant soin de les orienter vers la vie, au lieu de les comprimer dans l'orbe de la mort et de la destruction. Et vous ouvrirez les asiles à ce printemps où tout germe sans flétrir. L'enfermé a besoin de graver dans les murs, non la trace de son passage, mais la preuve que le mur a été l'horizon de ses jours et de ses rêves, que son existence est un mur et l'écriture sa plaie, son excoriation. Le fou ôte imprudemment le masque sous lequel nous dissimulons nos émotions. Or, l'émotion brûle à l'air libre. Le fou est celui que sa vérité consume. Le risque est si grand que nous redoutons d'être vrais envers nous-mêmes. Extrait du texte de Raoul Van Heghen, s'écrit gravé.
On a fait une première exposition dans l'atelier d'Yvonne Guégan, dans les jardins, parce que c'était des tirages sur bâche, donc on pouvait les mettre en extérieur. Elle a été présentée au musée de Saint-Lô aussi, puisqu'il y avait une rétrospective sur Yvonne Guégan. On l'a présentée aussi au cours de de colloque sur la psychiatrie. Et du coup, on s'est dit, allons plus loin, faisons un livre. Il s'appelle « S'écrit gravé ». Il met donc en regard mes photos en couleur sur les inscriptions sur les murs, les dessins en noir et blanc d'Yvonne Guégan, le texte de Raoul Vaneghem, et on a ajouté une préface d'un monsieur qui s'appelle Claude-Louis Combet, qui est un grand poète, et un espèce de long poème halluciné de Jean Aberville, et dont j'ai toujours apprécié le travail.
Over an ocean away, like salmon.
À chaque fois que j'ai pu faire un bouquin, je me suis toujours associé à un écrivain. En sachant que c'était d'abord un livre de photographie, même ce bouquin sur l'ASMN, l'usine à feu, il y avait ce texte de Michel Onfray, dont le titre du bouquin est issu. Hein, l'usine à feu, c'était en fait le titre de son texte. Et il a tout à fait répondu à ce que j'attendais, à savoir c'est un texte entre le journalisme, je dirais, et la poésie. Et avec des aspects assez politiques, radicaux même. Ce qui est un peu différent aujourd'hui, c'est que je me mets à écrire sur mes photos. Mais pour le moment, j'en suis un peu à un début de ça. C'est-à-dire que bon, j'ai pas encore la matière à en faire un livre. J'ai déjà le titre.
Pour illustrer cet entretien, nous avons choisi Aphex Twin, de la musique traditionnelle irlandaise, Amalia Rodriguez et Robert Wyatt. Une émission réalisée par Sandre Delors, montage, mixage, Rémi Estival.